d'abord les grands titres. Le cyclone débit de catégorie 4 s'intensifie et frappe les régions côtières du nord du Queensland. Le gouvernement fédéral abandonne son traité d'extradition controversé avec la Chine. Et puis la dernière tournée diplomatique du président français François Hollande en Asie du Sud-Est. Le cyclone Debby, classé catégorie 4, touche les régions côtières du nord du Queensland. 25 000 personnes dans les zones de basse altitude étaient hier soir conseillées d'aller dans les hauteurs plus sécurisées. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, parle de vent violent toute la journée de ce mardi. Elle est sur l'ABC.
This is going to be a long day. A lot of people are bunkered down. They're in a safe place, but it's going to take a long time, well into this afternoon and to the evening, before these winds even start to die down. So the best place to be is in your safe place in your home. Please do not move out. Stay there. Stay with your family close by.
Voilà, c'était la chef du Queensland, Brett Harrison, et du bureau de la météo, et déclare que le cyclone pourrait être de catégorie 5, donc un cyclone très puissant.
At this stage, we can't rule out a Category 5 system during the coming hours. But Category 4, it's a very intense system at the moment, so it is very intense.
Brett Harrison sur l'ABC. Ian Stewart, le commissaire de police du Queensland, demande aux résidents de Mackay d'aider leurs voisins qui pourraient être en difficulté.
We'd ask other people who live in safer areas of Mackay to open their hearts and their homes to their friends. Certainly there's the opportunity, if you're not in any of the affected zones, to put your hand up, call a friend and say, listen, bring your family to my place. You know, hopefully it'll just be for a night.
Voilà le commissaire du Queensland. L'accord d'extradition entre la Chine et l'Australie n'aura pas lieu après que l'opposition travailliste, les Verts et les sénateurs indépendants avaient décidé de faire échouer les tentatives du gouvernement de faire voter la loi au Sénat. Le gouvernement vient donc de décider de ne pas débattre cette loi et annule le projet de loi. Écoutez Bill Shorten, le chef de l'opposition fédérale.
Shadow Cabinet met last night. It was our recommendation to caucus later this morning, that we not ratify the treaty. I spoke with Malcolm Turnbull this morning and advised him of this. He has subsequently advised me that they're withdrawing the treaty for ratification.
Voilà, c'était Bill Shorten. Le sénateur indépendant Corey Bernardi salue la décision du Parti travailliste de vouloir bloquer la loi d'extradition avec la Chine, car selon lui, il n'y avait aucune garantie du bon traitement des personnes du moment qu'elles se trouvaient en Chine.
We don't know what happens to people once if they were extradited to China. Even if you are found guilty of an offence and not subject to the death penalty, we can't establish whether that person is executed at a later point in time. There is no assurances in that respect, no guarantees.
Le sénateur Corey Bernardi, le député du Parti national, George Christensen, déclare que la mise en place d'un code de conduite pour les producteurs de sucre du Queensland est toujours une option pour le gouvernement fédéral. Les membres du parti One Nation ont déclaré qu'ils voteront contre tout projet de loi du gouvernement tant qu'il n'y aura pas une résolution à la dispute avec les producteurs de sucre, une dispute qui tourne autour de la commercialisation et de la vente de leurs récoltes. Le député du Parti national, George Christensen, déclare que le gouvernement devrait se concentrer sur un code de conduite d'abord.
I've had very fruitful discussions with the Barnaby Joyce, the Deputy Prime Minister, with the Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer Scott Morrison. They've been very helpful in getting the situation where we are today, where the on-supply agreement is being reached. And I know that Scott Morrison himself intervened quite a number of times in that matter between QSL and Wilmar. But I believe that the code of conduct idea is very much still alive.
Voilà, c'était le député George Christensen. 113 ambassadeurs australiens, hauts commissaires et consuls généraux sont à Canberra pour discuter les projets des nouvelles politiques étrangères du gouvernement. C'est Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères, qui préside la réunion. Une nouvelle stratégie doit être trouvée avec les derniers développements à l'échelle mondiale, comme le Brexit, l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Le Premier ministre Malcolm Turnbull et le ministre du Commerce Steve Chobo assisteront aussi à la réunion. En Russie, l'opposant Alexei Navalny a été condamné à 15 jours de prison. Il est à l'origine des manifestations contre la corruption que les autorités déclarent être illégales. Son avocat, Olga Mikhailova, déclare qu'elle fera appel.
All our requests were dismissed. We were not given enough time to read the case. We refused to do that. In addition, we were refused to gather evidence and to present it in court. The court gave us 5 minutes for that. During that time, of course, it's impossible to get prepared for the defence. And after that, the court made a ruling and arrested Alexei Navalny for 15 days.
Et maintenant, le reportage depuis Moscou de Étienne Bouche pour Radio France Internationale.
Alexei Navalny a été condamné ce lundi à 15 jours d'incarcération. C'est lui qui est à l'origine des manifestations qui se sont tenues dimanche dans tout le pays. La première réaction du Kremlin a été pour le moins rigide. Son porte-parole accuse Navalny d'avoir menti en disant que ces manifestations étaient légales. Le Kremlin parle de provocation et affirme même que des mineurs se sont vus proposer des sommes d'argent en échange d'une participation. Le tribunal l'a aussi condamné à une amende de 20 000 roubles, l'équivalent de 325 euros. Pour rappel, Alexei Navalny est aujourd'hui la figure de proue de l'opposition en Russie. Sa notoriété date du mouvement de protestation qui avait suivi les élections législatives de 2011 et précédé la réélection de Vladimir Poutine. Il dénonce inlassablement la corruption des cercles du pouvoir. Il y a un mois, le Fonds de lutte contre la corruption qu'il dirige a diffusé un film à charge contre Dmitri Medvedev. Le Premier ministre y est directement accusé de s'être bâti un empire immobilier.
Voilà, c'était Étienne Bouche pour RFI. La première ministre britannique Theresa May était en Écosse hier pour essayer de contenir les appels à un nouveau référendum sur l'indépendance. Le point avec Muriel Delcroix pour RFI.
La rencontre a été qualifiée de cordiale, ce qui n'a pas empêché Nicola Sturgeon de faire part de sa frustration face au refus de son homologue britannique de faire la moindre concession face aux demandes d'un accord à part pour l'Écosse lors des négociations sur le Brexit. En amont de leur rencontre, Theresa May avait en effet redit lundi matin qu'elle estimait le moment malvenu de réclamer à nouveau l'indépendance de l'Écosse, insistant sur l'importance de préserver l'unité du royaume.
Quand cette grande union de nations se fixe un objectif et travaille ensemble avec détermination, nous sommes une force que rien ne peut arrêter. Ainsi, au moment où la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne et que nous nous forgeons un nouveau rôle dans le monde, la force et la stabilité de notre union vont devenir encore plus importantes.
Theresa May a promis un accord de sortie de l'Union européenne dans 2 ans adapté à toutes les nations du pays, mais le parti indépendantiste écossais n'en croit pas un mot et grâce au soutien du parti vert écossais, le Parlement d'Édimbourg devrait voter sans problème ce mardi une motion autorisant Nicola Sturgeon à réclamer à Londres un second référendum d'indépendance augurant d'une crise constitutionnelle à plus ou moins long terme au sein du royaume.
Voilà, Muriel Delcroix pour RFI. Grève générale en Guyane depuis hier. Les revendications portent sur la santé, l'éducation, l'immigration, l'économie, le chômage et l'insécurité. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a promis qu'une délégation ministérielle se rendrait sur place d'ici la fin de la semaine. Reportage sur la situation en Guyane avec Caroline Marie pour RFI.
La fusée n'a pas décollé, mais c'est la Guyane qui va décoller et l'école qui va décoller.
L'éducation nationale concentre une bonne part des revendications du mouvement citoyen en Guyane. Tout d'abord, les constructions scolaires. Pour être en phase avec la croissance démographique galopante du territoire, il faut construire chaque année de nouveaux établissements, mais les budgets ne suivent pas. Résultat, près de 5000 élèves sont sur liste d'attente. Autre problème, la scolarité n'est pas gratuite ici. Alexia Acelos, 16 ans, élève de première.
Il y a vraiment une inégalité à l'école parce qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc il y a aussi la gratuité de l'école qui est une de nos priorités. Par exemple, on paye 150 euros pour acheter les manuels qu'on nous demande d'acheter. C'est trop cher et il y en a, ils viennent sans manger parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine. Ils ne peuvent pas aller dans un libre-service pour s'acheter à manger.
Faute de moyens, beaucoup d'élèves décrochent. La plupart disparaissent dans la nature. Bruno Niederkorn, du STEG UTG.
Le Sinamari à Kourou ont été évalués de manière officielle à plus de 2000 enfants entre 16 et 25 ans dont on ne sait même pas pas où ils sont. Ils sont inscrits ni à Pôle emploi, ni à la mission locale, ni à la mairie. Ils ne sont inscrits nulle part. On ne peut pas continuer comme ça à abandonner sa jeunesse.
Les parents s'inquiètent pour ces jeunes, souvent livrés à eux-mêmes.
Ça engendre de l'insécurité.
Des enfants qui sont happés par la rue.
Ce matin, une grande marche pour l'éducation en Guyane est prévue à Cayenne.
Voilà le reportage de Caroline Marie pour RFI. La dernière tournée diplomatique du président français François Hollande en Asie du Sud-Est, à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. À Singapour où il se trouvait, les Français de l'étranger suivent la campagne présidentielle de près. Reportage Margot Bédé pour RFI.
Dominique est avocate depuis 12 ans à Singapour, ce qui ne l'empêche pas de suivre assidûment la campagne. Une campagne qui sonne un peu creux vue d'ici.
On est un petit peu triste d'entendre des débats qui n'en sont pas, de ne pas avoir de réponse à des vraies questions. Je pensais plutôt voter pour Fillon et je n'en suis plus sûre.
Charlotte, elle, est arrivée à Singapour il y a 10 ans. Si son cœur balance à gauche, elle ne se fait pas d'illusions.
On verra les résultats, mais ça va être Fillon. Je pense qu'il va faire un meilleur score ici que n'importe où en France.
Et vous, à titre personnel ?
Je n'irai pas vers Hamon, je vais plutôt vers Macron. De toute façon, c'est le dilemme de tout socialiste.
Si la jeune femme risque de voter par défaut, ce n'est pas le cas de tous. Les soutiens à Emmanuel Macron s'organisent à Singapour. Plusieurs discussions ont eu lieu. Nicolas a participé à l'une d'entre elles. Il a créé son entreprise ici, il y a 2 ans.
C'est intéressant de voir qu'il y a des réunions autour du projet d'En Marche et qu'il n'y a pas cette fascination politique, mais c'est plutôt vraiment, ça parle de fond, beaucoup de construction, et on veut faire changer les choses, on voit un engouement.
Est-ce que cet engouement portera ses fruits ? Réponse le 23 avril prochain, date du premier tour de la présidentielle.
Reportage de Margot Bédé pour RFI. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne sont parmi les 40 pays qui ne prennent pas part aux entretiens des Nations Unies sur l'accord d'une interdiction des armes nucléaires. Les pays qui ne prennent pas part aux discussions sont engagés, déjà engagés sur le traité de la non-prolifération des armes nucléaires datant de 1970. Écoutez l'ambassadeur britannique aux Nations Unies, Matthew Rycroft.
The UK is not attending the negotiations on a treaty to prohibit nuclear weapons because we do not believe that those negotiations will lead to effective progress on global nuclear disarmament. They cannot and will not work.
L'ambassadeur britannique aux Nations Unies. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, est jugé pour crime contre l'humanité pour son implication présumée dans des crimes commis pendant la crise post-électorale. L'accusé et ses avocats boycottent le procès depuis quelques mois. Reportage de Frédéric Gara pour RFI.
Une salle d'audience à moitié pleine, devant un box des accusés parfaitement vide, ce procès en assises de Simone Gbagbo, qui se voulait exemplaire, aura finalement pris une tournure pour le moins inattendue. Peu importe, la cour poursuit son office et les avocats des victimes et de l'État ivoirien ont chacun exposé les faits qu'ils retiennent pour réclamer la condamnation de l'ex-dame de fer de Côte d'Ivoire. Il y eut maître Moïse Dibi qui loua avec emphase l'action du président de la cour qui n'a pas cédé, dit-il, aux arguments de la défense, puis maître Alain Bokola, qui, surjouant sa plaidoirie, fut parfaitement inaudible grâce à une sono défaillante. On a cru comprendre néanmoins que lui aussi condamnait la stratégie de la défense, irrespectueuse de la cour et jouant la fuite en avant, dit-il. Puis, plus concret et précis, maître Diomande Bafongé détailla les innombrables entretiens que l'épouse de Laurent Gbagbo eut avec les ministres du gouvernement à la cellule de crise et ses rendez-vous avec des vendeurs d'armes israéliens en plein embargo. Déduction, ces rencontres ne pouvaient être que pour préparer des attaques comme celle du marché d'Abobo ou contre les manifestants de la RTI, rien de très concret et surtout aucune preuve matérielle produite dans ce procès, mais suffisamment, selon les avocats, pour faire condamner Simone Gbagbo. Demain, le procureur général, Ali Yeo, prononcera son réquisitoire. Simone Gbagbo risque la prison à perpétuité.
Frédéric Gara pour RFI. Les Nations Unies demandent une enquête sur le meurtre de 6 travailleurs d'aide humanitaire au Soudan du Sud. Samedi dernier, ils sont tombés dans une embuscade alors qu'ils voyageaient de la capitale Djouba vers la ville de Pibor. Écoutez le porte-parole des Nations Unies pour l'aide humanitaire, Jens Larke, qui parle de crimes de guerre.
We do acknowledge that it may be difficult in the current circumstances because it is a country which is in the grips, in the depth of a very, very vicious war. But of course, those who are responsible must be held to account, given not least the fact that if it is an intentional attack on aid workers, it may constitute a war crime.
Voilà le porte-parole des Nations Unies pour l'aide humanitaire, Jens Larke. Un mot de sport avec les Socceroos qui jouent en match de qualification pour le Mondial de 2018 contre les Émirats Arabes Unis ce mardi soir à Sydney. Les Socceroos sont troisième dans leur groupe B après 4 matchs nuls. Écoutez Ange Postecoglou, le sélectionneur des Socceroos.
The situation really is any more pressurized than one team or the other. At the end of the day, it's a World Cup game. There's 3 points at stake, and both of us, I guess, will be going for it.
Voilà le sélectionneur des Socceroos. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Adélaïde maximale de 24 degrés, Alice Springs 37, Cairns 35, Brisbane 32, Canberra 27, Hobart 22, Perth 23, Darwin 32, Melbourne 22 et à Sydney maximale de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce 28 mars, le cyclone Debbie de catégorie 4 s'intensifie et frappe les régions côtières du nord du Queensland. Le gouvernement fédéral abandonne son traité d'extradition controversé avec la Chine. Et puis la dernière tournée diplomatique du président français François Hollande en Asie du Sud-Est. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench